c'est une séance autour de la socialisation, qui est une sorte de dénominateur commun des travaux qu'on mène au sein de l'équipe ENS du Centre Max Weber. Cette équipe s'appelle Disposition, Pouvoir, Culture, Socialisation. Elle est dirigée par Bernard Lahire. Et ici, on va attaquer la question de la socialisation sous un angle spécifique. C'est celui de la socialisation professionnelle à un métier particulier, le métier de footballeur. Alors, l'intérêt de ce type d'objet, je l'ai sous les yeux, c'est que ça fait venir du monde, ce qui est une très bonne chose. C'est-à-dire que vous venez entendre parler de football et subrepticement, clandestinement, vous allez aussi entendre parler de sociologie, donc on rentre par la fenêtre d'une certaine façon, et ça nous plaît bien cette idée. Après, au fond, je crois que Stéphane et Julien, alors Julien qui va présenter son travail et Stéphane qui va le discuter, ont en commun cette phrase qu'ils citent tous les deux, chacun dans leur livre, qui est une phrase de Jean-Michel Faure et Charles Suau, qui est que, alors je ne l'ai plus exactement en tête, mais que les footballeurs sont moins souvent, enfin, sont plus souvent parlés qu'ils ne parlent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup à leur place. Et ce que vous avez voulu faire l'un et l'autre dans vos travaux respectifs, c'est essayer de reconstituer ce que ça pourrait être le sens vécu par ces acteurs particuliers de ce type d'expérience biographique professionnelle. Et donc, bon, alors, j'ai pas eu le temps de le montrer, mais enfin, voilà les travaux, je vais passer rapidement juste pour vous montrer toutes les références sous les yeux. Et ce qu'on s'est dit, depuis l'année dernière, c'est que dans ce séminaire, on voudrait bien que les sociologues soient confrontés aussi à ceux dont ils parlent, parce que d'une certaine façon, vous voyez, la phrase, c'est une phrase dans laquelle il y a un petit paradoxe, c'est-à-dire que ce sont quand même des sociologues qui vont parler ici, des footballeurs. Ce qu'on essaye de faire depuis un an, c'est les confronter aux acteurs. Alors l'année dernière, ça a donné une séance avec Marwan Mohamed, qui a été discuté par un proviseur de lycée de la banlieue lyonnaise, et c'était passionnant. On retente le coup en ouverture de cette année, puisqu'on a invité Vikash Dorasso, ancien footballeur international, 18 sélections, 5 années à l'OL. Je ne vais pas le faire en long, hein, le palmarès, il est imposant. On l'a invité à discuter et à réagir aux propos de Julien et aux commentaires de Stéphane. Vikash Dorasso a une particularité, c'est que c'est un footballeur ou un ancien footballeur qui parle et qui écrit, qu'on a d'ailleurs souvent taxé d'intello dans les médias. Alors c'est vrai que c'est une propriété intéressante pour nous parce que ça le met en situation justement de commenter et de discuter. Ça aurait certainement été intéressant aussi d'inviter un footballeur qui ne parle pas ou qui n'écrit pas. C'est plus compliqué. On n'y est pas arrivé. Et on est très content du coup d'avoir Vikash avec nous pour discuter les travaux de Julien et de Stéphane. Je laisse la parole à Julien qui va présenter son travail, puis à Stéphane qui va discuter, puis à Vikash. Voilà, bon séminaire.
Merci. Donc d'abord, remercie Pierre et toute l'équipe du séminaire pour cette invitation, donc qui me donne l'occasion de présenter donc mon ouvrage paru en mai dernier. Ouvrage donc qui est issu d'une thèse de sociologie, qui est une version remaniée et synthétisée de cette thèse de sociologie que j'ai menée pas très loin d'ici à l'université Lyon 2 sous la direction de Bernard Lahire et que j'ai soutenue en 2008. Alors d'abord, pour présenter mon travail, il est d'abord nécessaire de rappeler, c'est un peu le passage obligé, qu'on a affaire à une population et un type d'activité professionnelle qui est abondamment commentée. Et ces professionnels sportifs donc, sont soit héroïsés, soit condamnés. Mais dans tous les cas, on a affaire à un objet qui est saturé d'images et de représentations. Les performances, et au premier rang desquelles celles de l'équipe de France, sont très fréquemment l'occasion d'interprétations morales. Et ces interprétations sont nettement structurées par le fait que dans les consciences, le football est associé plus ou moins directement aux jeunes des classes populaires et aux jeunes issus de l'immigration. D'où la nécessité, dans la démarche sociologique, de mettre en lumière les principes structurants de ces représentations, de ces images des footballeurs professionnels, pour essayer de les mettre à distance et de ne pas se laisser enfermer dans ces représentations communes des footballeurs professionnels. À y regarder de plus près, ces types de discours de représentation sur les footballeurs professionnels enferment souvent leur parcours, leur trajectoire, dans une double alternative que j'essaye modestement par mon travail de dépasser. La première alternative que l'on repère dans ces discours, c'est le fait que ces parcours sont souvent résumés comme étant le résultat d'un talent naturel, dans lequel est abondamment utilisé le langage du don, du sens inné du jeu, autant de qualités naturalisées. Et cette naturalisation s'accompagne souvent d'une représentation ethnicisée de la performance sportive. Et donc là, inutile hein, de commenter davantage, vous avez sans doute en tête tout un tas d'éléments qui vont dans ce sens-là. De manière alternative et complémentaire, l'accès au métier de footballeur professionnel est aussi souvent décrit comme le produit d'une grande volonté, d'un courage individuel, qui est dépeint comme une volonté d'arrachement à une condition sociale. Donc à rebours de cette première alternative, j'essaye de montrer les conditions sociales de ces parcours de jeunes devenant footballeur professionnel. Et plus précisément, l'objectif est de montrer qu'au-delà du seul talent naturel, on a affaire à un corps qui est travaillé, qui est façonné. Autrement dit, de mettre en évidence la construction sociale du corps des footballeurs. De la même manière, l'idée est de montrer qu'au-delà de la volonté, d'une simple volonté personnelle, il existe un système de formation et que derrière cette volonté personnelle se cachent des instances de mise au travail, des instances de formation des footballeurs professionnels. Dans ces mêmes représentations et ces mêmes discours, il existe une deuxième alternative qui les structure. Alors pour certains, l'accès au métier est l'équivalent de la réalisation d'une passion, d'un rêve d'enfant qu'ils parviendraient à réaliser. Et à l'opposé, la passion est pour certains, n'est pour certains qu'un prétexte factice, qu'une excuse, et ces joueurs seraient essentiellement mus par l'appât du gain, la course à l'argent, et il n'y aurait point de passion dans cet univers-là. Alors mon objectif par ce travail est d'essayer de sortir de cette alternative, de cette opposition-là. Alors tout d'abord en montrant les limites de la vision enchantée de la passion, en montrant que cette passion ne tombe pas du ciel, qu'elle n'est pas spontanée, mais qu'il existe des lieux de construction sociale de cette passion. Et autrement dit, que les institutions de formation choisissent autant les aspirants que eux-mêmes la choisissent, parce que cette institution réalise un travail de consécration qui alimente l'intériorisation, c'est chez jeunes, du sentiment d'être fait pour ça et de devoir vivre pour le football. Mais mon objectif n'est pas non plus de souscrire à une vision désenchantée de la profession, puisque dans le football, comme dans l'ensemble du sport de haut niveau en général, la passion pour le sport, pour le football ici, fonctionne comme une véritable catégorie de perception du métier, et donc elle a une réalité qui est une réalité subjective. La vocation, le sentiment d'être fait pour ça, et donc une réalité subjective est un moteur d'engagement pour ces jeunes-là, est un moteur d'engagement dans des enjeux spécifiques. Ce travail consiste donc à montrer ces conditions sociales d'accès à ce métier spécifique en mettant à distance ces discours qui sont souvent à la fois moralisants, naturalisants et psychologisants. Mon angle d'approche pour faire cela est concentré sur l'analyse d'une socialisation professionnelle en essayant de montrer la force des processus de socialisation qui accompagnent la formation professionnelle et plus précisément d'observer les mécanismes d'intériorisation, de disposition, de savoir-faire, d'une vocation qui structure une culture professionnelle spécifique, la culture professionnelle des footballeurs professionnels. Alors pour faire cela, je montre le rôle central d'une institution pour ces métiers-là, ce sont les centres de formation des clubs professionnels. En effet, dans le football professionnel en France, la formation s'est fortement institutionnalisée et depuis les années 80, 80, on va dire, les centres de formation des clubs professionnels constituent la principale voie, ou en tout cas au moins la voie royale pour accéder au métier de footballeur professionnel. Alors ces centres se sont développés à partir de la fin des années 70, et on en compte aujourd'hui environ 32 centres de formation qui accueillent, pour vous donner une idée un petit peu de la population dont je parle, qui accueillent environ 1800 pensionnaires chaque année. Donc ces centres sélectionnent et forment des jeunes footballeurs âgés de 15 à 19 ans. Mais depuis le début des années 90, cette formation est devenue plus précoce avec la mise en place d'une phase dite de préformation. Préformation qui concerne des joueurs plus jeunes, donc âgés de 12 à 14 ans, et préformation qui se réalise soit dans des clubs professionnels, soit à l'intérieur de centres fédéraux. Du fait de la centralité de ces instances de formation dans l'accès au métier de footballeur, mon travail s'est fondé sur une enquête socio-ethnographique à l'intérieur d'un club professionnel particulier, un club professionnel français, plutôt appartenant plutôt au grand club du football en France, enquête que j'ai réalisée entre 2002 et 2004. Et ce club donc réunit une filière de formation faite composée à la fois d'une structure de préformation, donc pour des jeunes de 12 à 14 ans, et d'un centre de formation proprement dit, qui accueille des jeunes entre 15 et 19 ans. Il accueille au total environ 130 apprentis, qui rentrent dans le club environ entre 13 et 14 ans en moyenne, et qui connaissent un apprentissage particulièrement intensif, notamment grâce à des aménagements de scolarité à l'intérieur d'un collège et de deux lycées. Alors je vous dis quelques mots, je précise en quelques mots le travail empirique que j'ai réalisé, parce que ça peut intéresser les étudiants, en sociologie. Et puis je présenterai ensuite les différents chapitres de mon ouvrage pour essayer de vous donner une vision d'ensemble, une vision un peu plus globale de mon approche et des résultats issus de cette enquête. Donc ce travail empirique, il repose sur l'idée d'une investigation intensive d'un seul club en essayant de croiser les données et les points de vue à l'intérieur de ce club-là. Donc précisément, elle a débuté par le suivi durant 2 mois et demi d'un groupe de jeunes joueurs âgés de 16 ans et 17 ans. Elle s'est ensuite poursuivie auprès des plus jeunes joueurs âgés de 12 ans durant 4 mois et demi. J'ai suivi ensuite, dans une dernière étape, les équipes en fin de formation, et plus particulièrement celle qu'on appelle l'équipe de 18 ans, que j'ai suivie pendant plus d'une saison. Donc j'ai réalisé au total environ 200 séances d'observation, la plupart du temps autour des entraînements ou des matchs. Donc si les terrains de jeu sont restés les plus facilement accessibles, j'ai pu progressivement, partiellement, observer d'autres espaces importants de la vie de cette formation, comme la salle de soins, les déplacements pour les matchs, etc. Surtout, ce travail empirique, cette insertion dans le club, a été associée à la réalisation d'entretiens sociologiques, à la fois avec l'encadrement dans le club et des pensionnaires et des jeunes en fin de formation. Donc à la fois, j'ai rencontré à la fois l'ensemble des encadrants sportifs, médicaux, scolaires, etc., travaillant pour ce centre de formation. Et puis, j'ai rencontré 33 joueurs du centre de formation âgés de 16 à 19 ans. J'ai complété cela par quelques entretiens avec des parents de joueurs et des anciens pensionnaires de ce centre de formation. J'ai aussi analysé les dossiers scolaires de 36 jeunes pensionnaires du club à travers leurs établissements scolaires. Et j'ai enfin réalisé aussi des observations dans un lycée qui accueille une bonne part des membres du centre de formation. Donc là, les observations ont été faites pendant que j'étais employé comme surveillant d'extérieur dans ce lycée-là. Pour l'organisation du livre, j'ai pris le parti d'essayer de suivre le parcours de ces jeunes pas à pas, et donc de dérouler un peu le cheminement et le parcours de ces jeunes-là, et de présenter à la fois l'avancée chronologique de leur parcours, et puis les différentes dimensions de cette socialisation. Donc je vais reprendre un petit peu chacun des chapitres en essayant de synthétiser, de vous dire quelques mots de la démonstration de chacun de ces chapitres-là. Alors il y a un premier chapitre, enfin qui est dans les faits un deuxième chapitre du livre, mais un premier chapitre de véritablement d'analyse, qui porte sur le recrutement des jeunes apprentis. Puisque si j'observe une institution qui est assez enveloppante, qui est très puissante dans ses effets de socialisation, il reste toutefois indispensable de resituer l'engagement de ces jeunes footballeurs dans une trajectoire sociale plus large, d'où l'intérêt pour les familles de ces joueurs, d'autant plus que l'entrée dans cette formation est particulièrement précoce. Donc j'essaie en gros de voir dans quel contexte familiaux émergent ces parcours, quelles sont les conditions familiales qui favorisent l'émergence de ce type de parcours. Alors, j'observe particulièrement trois dimensions principales sur ces contextes familiaux. Alors, tout d'abord, bien sûr, on pouvait s'y attendre, mais c'est important à souligner l'importance de la pratique footballistique à l'intérieur de la famille de ces apprentis, surtout de la pratique sportive paternelle. Conformément à toute une série d'activités qui exigent une virtuosité acquise tôt, on voit clairement le rôle joué par ses parents dans la prime socialisation à l'activité. Donc beaucoup de ces apprentis footballeurs rentrent dans le football, si j'ose dire, guidés par un père lui-même amoureux du ballon. Deux tiers, par exemple, des joueurs ont un père qui a joué dans un club, et l'engagement de ces pères dans le jeu n'avait souvent rien d'anecdotique, puisque un tiers a pratiqué dans des championnats nationaux, dans des championnats d'élite, et puis un quart de ses pairs a aussi occupé des fonctions d'encadrement dans des clubs de niveau varié, étant entraîneur, dirigeant, accompagnateur, président de club, ce genre de choses. D'autre part, mes données sur les conditions familiales soulignent également que l'on a affaire à une population qui est majoritairement issue des milieux populaires, et les enfants d'ouvriers et d'employés représentent un peu plus de la moitié des pensionnaires du centre de formation, ce qui est relativement conforme avec d'autres statistiques existantes sur le domaine et avec la relation historique qui lie ce sport professionnel et ses groupes sociaux. Il est toutefois important de noter également que les enfants de cadres et professions intellectuelles supérieures n'étaient pas du tout absentes de ma population, puisque ça représentait à peu près un cinquième des jeunes que j'ai eu l'occasion de croiser dans ce centre de formation. Enfin, il existe une troisième dimension sur ce contexte familial. Il existe un fond d'évidence commun selon lequel on retrouverait dans ce genre d'institution les derniers de la classe, uniquement des élèves en difficulté scolaire qui trouveraient dans cette voie sportive une sorte de voie parallèle et de voie refuge par rapport à ces échecs scolaires. Alors la situation des jeunes du centre de formation est bien plus nuancée. Et les résultats des jeunes du club étudié, les résultats à l'école primaire, sont loin d'être systématiquement marqués par des difficultés scolaires précoces. Par exemple, en fin de cycle primaire, seulement 3 des apprentis sur 43 cas que j'ai pu reconstituer avaient redoublé. 8 joueurs sur 10 ne présentaient aucun retard scolaire au moment de l'entrée dans une formation. Donc au final, j'ai environ un cinquième, on va dire, de mes jeunes apprentis qui ont connu des difficultés scolaires nettes au moment de leur engagement, avec soit des redoublements, soit des séries d'avertissements stipulées dans les bulletins, ce genre de choses. Dans le chapitre suivant, j'essaye de décrire le cheminement par lequel un loisir enfantin, le football, devient progressivement un engagement intensif et comment le football devient l'objet d'un attachement fort. Alors ce cheminement connaît des variantes différentes en fonction des propriétés sociales et sportives de ces jeunes-là, mais on retrouve à peu près chez tous la même trame, un même scénario d'une consécration sportive progressive. En effet, quand ils arrivent au centre de formation, dans le club professionnel, tous ces joueurs-là ont déjà une longue pratique amateur, puisque plus de la moitié ont commencé le football avant l'âge de 6 ans, donc ils sont évidemment précoces dans leur entrée dans le football. Et durant tout au long de cette carrière, ce qu'on peut appeler une carrière amateur, a donné lieu à une longue socialisation évidemment au football, dans laquelle se sont succédés une série de micro-élections qui vont opérer un progressif marquage symbolique de ces jeunes. Alors, micro-élection, on peut penser à la désignation comme capitaine, au surclassement dans l'équipe d'âge supérieur, à la sollicitation par un club amateur légèrement plus réputé, voire aux premières sélections fédérales à partir de 12 ans. Donc, toute une série de micro-élections qui enclenchent ce processus de marquage symbolique. Aussi, la majorité d'entre eux, qui ont débuté dans des clubs plutôt des clubs de football modestes, s'entraînent dès l'âge de 11 ans dans des clubs d'élite situés au plus haut niveau de leur catégorie d'âge. L'entrée dans le club est donc un moment à resituer dans un processus d'apprentissage plus long et de marquage symbolique. Et l'efficacité symbolique de la sélection par le club professionnel, qui est souvent vécue avec émerveillement par les jeunes pensionnaires, comme la réalisation d'un rêve d'enfance, comme la réalisation d'un rêve personnel, s'inscrit donc dans ce processus étalé dans le temps de marquage symbolique. Donc le repérage par le club professionnel peut alors fonctionner comme un rite d'institution qui contribue à enraciner chez eux l'aspiration au métier, le sentiment d'avoir un talent particulier, d'être doué, de se distinguer des autres et d'être fait pour ça ou d'avoir sa chance pour ce métier qu'il perçoit comme exceptionnel. Dans le chapitre suivant de l'ouvrage, alors le livre pénètre plus directement dans la formation sur place proprement dit, et je montre dans ce chapitre-là comment la formation au football professionnel dans le club exige et produit un engagement intensif dans l'apprentissage. Les apprentis sont progressivement immergés dans un espace et un temps à part, structurés par les échéances sportives. Et la détermination dont ils doivent faire preuve les aspirants s'appuie sur les conditions de vie offertes par le club, qui génèrent, qui permettent cette focalisation sur les performances et sur les enjeux sportifs et sur cette urgence du résultat sportif. Donc il faut savoir que plus de la moitié de ces joueurs en formation sont internes, donc vivent également sur place, et que de plus, sur les bancs de l'école, puisqu'ils poursuivent une scolarité parallèlement à leur formation sportive, ils retrouvent leurs partenaires de club, hein, dans des classes spécifiques, ce qui leur permet de bénéficier des aménagements dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la vie de ces footballeurs, de ces apprentis footballeurs, se fait de plus en plus à mesure qu'ils progressent dans le cursus, au rythme du calendrier sportif, dans un espace où tout tourne autour de la performance sportive. Ils vivent dans un temps, dans un espace, mais aussi dans un réseau de sociabilité qui est assez nettement structuré par la logique de performance. Ils sont comme absorbés progressivement par ces enjeux. Alors les plus enjeux, ça peut être le prochain match de compétition de l'équipe, la titularisation ou non dans cette équipe-là, la dernière douleur qu'ils ont ressentie à un entraînement, la dernière remarque du coach sur leur propre performance. Et donc dans cet espace-là, ils apprennent progressivement à penser football et à conditionner leur pratique à ces enjeux-là. L'exemple le plus symptomatique de cette absorption ou de cet enfermement, est sans doute le récit que m'a fait un ancien pensionnaire de ce centre de formation. Alors cet ancien pensionnaire qui n'avait pas percé dans le football professionnel, qui avait fait 6 ou 7 ans de formation, qui était allé assez loin dans la formation, était reconverti au moment où je l'ai rencontré dans un tout autre domaine d'activité. Mais il me décrit son expérience, donc il revient sur son expérience avec moi, il me décrit son expérience à partir d'une opposition très significative entre ce qu'il appelle la vie réelle, la vie normale, le vrai monde, et d'autre part l'existence irréelle, déconnectée de l'apprenti footballeur. Pour lui, la vie d'aspirant footballeur qu'il a menée durant ces 6 années jusqu'au port du professionnalisme est à la fois exceptionnelle et absorbante et lui donne l'impression d'avoir vécu dans une bulle, dans un microcosme. Là, je reprends ses propres termes. Il me disait, le football, dans ces moments-là, dans cette bulle, c'est ce qui te fait aller, c'est ce qui te fait vivre, c'est ce qui te fait être bien ou pas bien. Il y a une autre dimension qui se crée. Voilà, donc ces propos me semblent assez révélateurs, hein, de cette immersion que peut produire par cette prise en charge enveloppante l'institution de formation. Dans un cinquième chapitre, je me suis penché sur l'apprentissage du métier. Alors, ce que j'appelle l'apprentissage du métier, c'est l'apprentissage des techniques, des gestes du métier, puisque il m'est apparu qu'en fait, les techniques sportives, la façon de jouer, étaient assez solidaire d'une culture professionnelle spécifique et que le façonnement, l'apprentissage des gestes faisait partie intégrante d'un mouvement d'appropriation d'une culture professionnelle spécifique. Donc j'essaie de montrer comment les formateurs mettent en place une forme d'enseignement qui fait en particulier de l'effort et de la discipline dans le travail des conditions d'accès au métier. Par exemple, l'entraînement donne lieu à des processus de rationalisation et à une mise en exercice du jeu. Les apprentis ne doivent pas se lancer spontanément dans la pratique, contrairement à ce qu'ils pouvaient faire dans leur tout premier club, par exemple. Mais ils sont invités à se soumettre à la logique des exercices avec qui est définie par des objectifs pédagogiques explicites et explicités par les entraîneurs par exemple en début de séance ou en début d'exercice. Donc cette mise en exercice constitue une mise en ordre de la pratique, qui obéit à la fois à une logique de rationalisation, mais qui est aussi liée à l'ordre moral, si je puis dire, qui structure la pratique. De plus, cette mise en ordre temporelle et spatiale de la pratique est associée à toute une série de règles relatives à la tenue, au langage, à la ponctualité, dont les entraîneurs visent à l'application quotidiennement et qui contribuent à la socialisation des jeunes apprentis. Donc ce souci apporté aux manières d'être corporelles, verbales des jeunes apprentis exprime en fait un certain rapport à la discipline et à l'autorité qui est inculqué dans ce type d'institution. Et puis dans les gestes eux-mêmes participent de cet apprentissage, puisqu'à travers des gestes s'intériorisent aussi des catégories de perception, des façons de voir le jeu et des façons d'envisager des types de jeux. Alors, par exemple, dans le club, enfin, dans la formation que j'observais, on retrouve de la part des entraîneurs une forte valorisation du jeu simple, du jeu droit. Alors je reprends des expressions typiques, hein, du jeu droit, des passes qui sont franches, qui sont pures, qui sont honnêtes, et qui participent toutes d'une intériorisation d'une morale ou d'un éthos de l'effort et de la discipline. À l'opposé, hein, il répond à la disqualification de gestes qui sont tordus, compliqués, faciles, du joueur qui tricote, etc., etc., qui fait trop de chichi, qui se complique la vie, etc., etc. Donc on retrouve des structures, des principes d'opposition dans les styles de jeu qui sont inculqués aux jeunes joueurs. Et donc avec l'idée hein, qu'à travers ces techniques, ce ne sont pas des principes purement techniques, mais ce sont aussi des manières d'être, des dispositions, un rapport à la discipline et à l'autorité qui sont véhiculées par cette formation. Je continue mon déroulé sur les différents chapitres pour arriver donc à un sixième chapitre qui décrit cette fois plus largement le traitement du corps à l'intérieur de cette institution de formation. Ce chapitre s'articule sur l'idée qu'au cours de la formation, les apprentis footballeurs doivent intérioriser la double contrainte qui est un peu inhérente au métier de sportif professionnel, qu'on peut résumer selon la formule qu'ils doivent à la fois user de leur corps sans l'user. Donc ils ont à la fois une exigence d'exploitation maximale de leurs ressources corporelles pour faire face aux urgences sportives ou aux urgences de la performance, et en même temps, une contrainte de préservation de ce capital central pour eux. Donc d'une part, au cours de la formation, ils intériorisent des pratiques et des dispositions au dépassement physique de soi hein, et à la banalisation de la douleur. Donc la formation de ce point de vue-là est d'abord le lieu de formation d'un corps résistant, soumis à l'urgence sportive, et la douleur est définie comme une condition normale d'accès au métier. Hein, avoir mal, ça fait partie du métier, et c'est une condition voilà, normale d'exercice du métier. Donc ce qui pousse, par exemple, d'autant plus les jeunes joueurs à dissimuler certaines douleurs vis-à-vis du staff médical. Mais d'autre part, donc autre facette de leur socialisation corporelle dans ce centre de formation, c'est aussi l'apprentissage d'un souci du corps, d'un souci instrumental du corps, on pourrait dire, puisqu'ils y apprennent également à épargner ce capital, à le préserver sur le lieu de la pratique, mais aussi en dehors des terrains de football. Cette socialisation s'opère notamment par cette fréquentation régulière du personnel médical, c'est-à-dire un médecin du sport et des kinés. Donc ils y apprennent une gestion et une attention pointilleuse à ce corps. Et de ce fait, certains comportements alimentaires ou de sortie, etc., deviennent ou sont vécus comme des écarts par rapport à des normes d'hygiène professionnelle et de comportement prescrits. Dans ces usages du corps, dans la formation, sont révélateurs de cette densité de l'engagement dans la pratique que suscite le centre de formation. C'est pourquoi, et c'est l'objet du chapitre suivant, cet engagement dans une formation, le suivi de cet apprentissage, les contraint à une reconfiguration, une redistribution de leur investissement dans les autres espaces, dans les autres lieux, dans les autres relations qu'ils ont l'occasion de vivre. C'est ce qui fait que la formation est fréquemment ressentie comme étant l'occasion de sacrifice, ou qu'ils sont nombreux à me dire avoir l'impression de passer à côté de leur jeunesse. Alors, cette transformation de leur investissement, elle est observable dans le domaine scolaire, mais elle se voit aussi dans les relations familiales et dans les relations amicales, qui sont également affectées par cet investissement, cet engagement dans le travail sportif. Et paradoxalement, famille et amis participent souvent à la construction de leur carrière, à la construction de leur engagement, notamment en se consacrant, en faisant des efforts, en se consacrant eux-mêmes à la carrière sportive de leur fils ou cet ami-là. Alors, sur le plan scolaire, très rapidement, on peut résumer les choses en disant que j'observe une érosion assez nette de leur investissement scolaire lors des dernières années de la formation. Lors de la pré-formation, je n'observe pas de modifications substantielles de leur façon de s'investir à l'école, de leurs notes, de toutes les appréciations qu'ils objectivent dans les bulletins. Par contre, en fin de formation, notamment lors des deux années de formation, lorsque les échéances professionnelles approchent, j'observe cette tendance à l'érosion du sens qu'ils trouvent à l'école, et ça s'observe donc à la fois dans les notes, dans des choix d'orientation supposés plus faciles, comme l'orientation vers un bac technologique, ce genre de choses. Donc on voit bien dans leurs propos et aussi dans les dossiers comment ils ressentent une concurrence croissante entre ces deux engagements dans leur vie. Donc on voit bien d'un point de vue sociologique comment l'institution de formation, cette institution de formation-là, est une institution qui est à la fois enveloppante, qui opère une prise en charge extensive de ces jeunes-là, mais qui n'est pas, à proprement parler, une institution close. C'est plutôt une institution d'articulation, de mise en cohérence des investissements et des appartenances de ces jeunes-là. Et puis enfin, le dernier chapitre, donc septième chapitre du livre, est pour moi l'occasion d'insister sur un point très important de la formation, très structurant pour cette formation-là, c'est le poids de l'incertitude qui pèse sur les parcours de ces jeunes aspirant au monde professionnel. Puisque s'il existe cet engagement-là, cet engagement intensif, les jeunes d'un centre de formation sont confrontés en fait à une double incertitude. La première incertitude, c'est celle qui règne à l'intérieur même du centre de formation, puisque le cursus de formation est marqué par le passage de différents filtres et par un écrémage progressif au sein de l'institution. Les premières années de formation en particulier donnent lieu à un écrémage important, c'est environ à 12-13 ans, c'est environ un tiers à un quart des équipes qui sont changées, qui sont renouvelées en fin de saison. Et puis cette incertitude, donc il y a cette incertitude du devenir en fin d'année, en fin de saison sportive, mais c'est une incertitude qui est beaucoup plus diffuse et qui irradie d'une certaine manière le quotidien des joueurs, puisqu'elle est remise en cause chaque semaine, et elle se concrétise par la composition d'équipes que les entraîneurs réalisent chaque semaine avec, par exemple, trois groupes, un groupe de titulaires, un groupe de remplaçants et un groupe de joueurs qui n'est même pas convoqué pour le match. Et donc chaque semaine, ces choses-là sont remises en cause. Les jeunes apprentis du centre de formation sont mis en concurrence et elles alimentent un rapport combatif, concurrentiel et évaluatif par rapport à leurs partenaires. Alors ils sont pris entre l'injonction de devoir faire équipe lors des compétitions, de devoir jouer ensemble et de témoigner de l'abnégation envers l'équipe, et en même temps l'injonction à se faire une place, à briller devant les autres pour s'assurer d'une place de titulaire et d'être conservé pour les années suivantes. Donc vraiment une incertitude qui marque et qui structure cette formation tout au long du cursus. Et puis cette incertitude interne est bien sûr redoublée par l'incertitude des débouchés professionnels, puisque, vous vous en doutez sans doute, puisque seulement une minorité des pensionnaires des centres de préformation parviennent à devenir professionnels. Alors il existe des données nationales sur ce sujet-là, sur le devenir des apprentis professionnels. Elles sont un peu sujettes à caution, parce que bon, c'est assez compliqué de mesurer ces choses-là, mais pour donner un ordre d'idée, elles comptabilisent entre 2 et 4 pensionnaires de centre de formation sur 10 qui deviennent professionnels. Dans le club que j'ai étudié moi, donc qui est plutôt un club de haut de tableau, on va dire, avec un centre de formation réputé, j'avais environ 4 pensionnaires sur 10 qui étaient sous contrat en 2007, c'est-à-dire 1 ou 2 ou 3 années après la fin de leur formation. Donc, il fallait que je fasse j'ai pris ce moment-là, j'ai fixé une année pour voir à ce moment-là quel était leur niveau d'intégration professionnelle. Et à ce moment-là, en tout cas, j'étais à 4 joueurs sur 10. Il y a beaucoup d'incertitudes sur le marché du travail footballistique, donc les choses sont difficiles à mesurer. Donc l'incertitude, cette double incertitude et cette concurrence qui est alimentée par le club façonnent leur rapport avec leur partenaire. Et elle agit aussi sur leur manière d'envisager leur carrière et leur métier. Cette organisation sélective et concurrentielle contribue à produire un certain rapport au métier où se concentre l'attention de chacun sur la position à l'intérieur d'une hiérarchie interne. Et ça favorise un rapport individualisé à la carrière avec une très forte conscience de la notion de carrière personnelle. Et ce type de rapport au métier se traduit notamment par la généralisation des accords conclus avec des agents sportifs, donc généralisation des 16 ans environ hein, de contrats ou de liens établis avec des agents sportifs susceptibles de les représenter en vue de leur prochain ou de leur éventuel contrat professionnel. Alors bien sûr, du côté du club et des formateurs, cette évolution est déplorée. Hein. Les entraîneurs déplorent l'immersion des agents dans la formation. Alors ils déplorent, ils n'ont plus la mort du maillot. Hein. C'est un peu la formule qui revient sans cesse dans la bouche des formateurs. Ils déplorent cette manque d'attachement au club. Ils déplorent le fait qu'ils ne seraient motivés par l'agent ou par la. Et il existe une critique féroce des agents sportifs chez ces entraîneurs-là. Ces propos traduisent en fait la mise en difficulté d'un mode de gestion paternaliste des pensionnaires footballeurs. Voilà un petit peu la démarche que j'ai entreprise. Et donc pour conclure, hein, juste dire que ce regard sur les conditions sociales d'accès au métier de footballeur souligne l'importance de tenir ensemble l'étude de la fabrique proprement dite, donc du lieu de l'école de formation proprement dite, avec son fonctionnement, ses sélections, sa méthode d'apprentissage, et en même temps l'inscription de ces jeunes aspirants aux espaces extérieurs auxquels ils appartiennent, et en particulier leur famille, l'école, les groupes amicaux dans lesquels ils sont insérés. Voilà, et c'est de cette manière-là que donc cette contribution sociologique est une invitation à sortir des jugements moraux pour comprendre les logiques sociales des comportements de ces jeunes sportifs. Voilà. Merci.